Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Il s'appelle Ivo Pitangui, il est mort en 2016. Il était l'une des personnalités les plus célèbres du Brésil, l'une des plus riches aussi, le chirurgien esthétique des stars, l'homme qui aurait rajeuni et embelli les célébrités de ce monde, de Faradiba à Mick Jagger, en passant par Elizabeth Taylor, Carla Bruni ou le truand Albert Spiaggiari. On sait moins qu'Ivo Pitangui a dirigé pendant des dizaines d'années une consultation gratuite de chirurgie réparatrice et esthétique à l'hôpital public de Santa Casa de la Miséricorde au centre de Rio. Comme un service public de la beauté, c'est l'idée que changer de nez, augmenter ou réduire sa poitrine est ou devrait être un droit opposable comme le droit au logement ou à la santé. La chirurgie esthétique pour tous comme un manifeste démocratique. Ainsi, chaque mercredi matin, entre 8 et 12 heures, des files d'attente vertigineuses de femmes et d'hommes issus de milieux défavorisés de Rio, des classes moyennes pauvres, s'allongeaient devant Santa Casa, attendant le diagnostic, puis le geste du plus grand spécialiste mondial des lèvres pulpeuses, des pommettes saillantes ou des fesses rebondies. L'histoire ne dit pas exactement si Pitangui réalisait les opérations lui-même ou s'il les confiait à ses étudiants pour qu'ils s'exercent, mais il est sûr qu'il organisait, subventionnait et supervisait ces transformations pour le plus grand plaisir des Brésiliennes et des Brésiliens. Il appelait ça son côté Robin des Bois, le meilleur pour les plus pauvres et pourquoi pas. En Iran, par ailleurs, capitale mondiale de la rhinoplastie, avec une opération du nez environ par minute chaque jour, le ministère de la Justice, sachez-le, a mis en place un service spécial pour traiter les ratés de la médecine et notamment de la médecine esthétique. En 3 ans, il a examiné 2715 affaires de chirurgie esthétique ratées, un chiffre que l'on comprend quand on sait que 1700 chirurgiens esthétiques exercent en Iran sans licence. Il manque clairement un Pitangui perse ou un département de chirurgie esthétique d'État. Tout de suite, dans les pieds sur terre, deux expériences de chirurgie esthétique un peu plus particulières encore, la chirurgie esthétique de l'intime ou pas, à vous de décider si c'est utile, dangereux, salutaire ou formidable. Et elles sont racontées par Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Eh bien, je m'appelle Sébastien Renard, je suis né le 6 mars 1989. Je suis le cadet d'une fratrie de 4 enfants. Alors, on a tous pris quelque chose de nos parents. Moi, j'ai pris le côté commerce de mon père, puisque je suis commercial. J'ai fait plusieurs sociétés et que des grosses sociétés. Donc j'ai été chez Europe Car France, on gérait des portefeuilles clients. Et puis au fur et à mesure de mon évolution, mon manager m'a confié le deuxième plus gros portefeuille de notre service après le service des grands comptes. Donc là, c'était une reconnaissance pour moi. Je me dis, waouh, c'est quand même le deuxième portefeuille qui génère le plus de chiffre d'affaires pour tout le service. Waouh, à 22 ans, quand même, vous dites, c'est quelque chose, quoi. Et j'ai fait pas mal rire ma formatrice, qui me disait, voilà Sébastien, si on t'avait pas, je pense que les journées auraient été longues. T'avais toujours le mot pour faire rire, pour tes petites bêtises à toi, donc c'est ça. Le Sébastien d'avant, c'était ça. C'était le Sébastien qui faisait des bêtises, qui avait toujours un mot pour rigoler, même des choses futiles, mais il y avait toujours un petit truc. Bah avant, j'étais très séducteur, j'avais confiance en moi. Peut-être un peu trop, je sais pas, mais j'ai toujours eu ce complexe. Un complexe qui est appelé le complexe du vestiaire. C'est comme les filles, si vous voulez, quand elles sont complexées de leur sein, elles vont dans un vestiaire, elles se montrent leur sein, vous voyez, elles se comparent. Bon bah voilà, bah nous garçons, nous aussi on fait ça. Hein. Bah oui, tout le monde qui n'a pas fait ça. Et bah je me disais, putain, lui il a de la chance, lui il en a un petit peu moins. Voilà, enfin je me disais, bon, ce genre de truc quoi, c'est... j'ai eu des amis IE, du temps du lycée, qui me disait que avant de sortir avec un garçon, elle regardait systématiquement la bosse dans le pantalon. Qu'il y avait une bosse, quoi, plutôt que plat. Et si on n'avait pas, elle n'allait pas le voir. Donc il fallait que ça se voit, quoi. Et après, effectivement, effectivement, bah, j'ai voulu avoir la même chose. Je me suis dit, bah, bon, pourquoi pas moi ?
Parce que vous n'aviez pas la bosse dans le pantalon ?
Non. Non, je ne l'avais pas. Mais je suis sorti en boîte de nuit et j'ai vu des choses, des gens qui se mettaient tout nus. Enfin, moi, c'est des choses que, par pudeur que je ne faisais pas, quoi. Non, je n'ai jamais fait ça. Enfin, et je pense que c'est peut-être de là qu'est parti le fait ou la volonté d'avoir cette bosse-là, parce que sexuellement, j'avais une sexualité tout à fait normale et heureuse.
Donc mais... c'était plus le regard des autres.
Ouais, plus le regard des autres. Et puis sentir que j'avais une bosse dans le pantalon, ça me rassurait, je pense. Je pense que c'est peut-être tout ça qui, au final, m'a conduit vers la chirurgie. Parce que mon père a pris la chose au sérieux. Il me voyait pas pleurer, mais il me disait, bon, mon fils est complexé, je vais l'emmener le rassurer. Donc il m'a emmené voir des médecins qui m'ont dit que j'étais tout à fait normal. Hein. Donc non, je n'ai jamais eu de problème ni d'érection, ni d'éjaculation. Enfin, c'était pas... ça m'empêchait pas de vivre, ça m'empêchait pas d'avoir des copines avec des relations, encore une fois, longues, d'avoir des rapports sexuels à des rythmes qu'on peut appeler effrénés. Quand on est jeune, hein. Voilà.
Votre première relation sexuelle, c'était quand ?
À quel âge ? J'étais un petit peu tardif sur ce côté-là. Parce que je voulais attendre la bonne. Finalement, c'est pas du tout elle. C'est une autre fille avec qui j'ai pas eu de contact. C'était juste voilà, pour me dépuceler, tout simplement. On peut pas dire que la première fois soit bien. On peut pas dire qu'on ait fait une super performance, que ceci, que cela. Après, j'ai rencontré une autre fille quand j'étais au lycée, avec qui je suis resté quasiment 4 ans. J'ai eu une histoire de 3 ans. Avec elle, c'était super simple. J'ai pas eu besoin de m'étaler sur le sujet. Elle connaissait mon complexe. Donc... aucun souci, aucun problème de rapport sexuel avec elle. Donc, ce qui a été bien avec elle, c'est qu'elle m'a rassuré tout de suite. Elle m'a dit, tu peux te mettre à poil, je m'en fous. C'est pour toi que... Enfin, c'est ta personne qui m'a attiré, c'est pas ça. À ce moment-là, j'avais 22 ans, il me semble. Et puis, là, je me dis, bon, ça fait un petit moment que j'y pense... Bon, je sais bien que mon père n'est pas pour, que ma compagne non plus. Et je lui envoie un message et je lui dis bon, bah, j'ai pris la décision de me faire opérer. C'est ma tante qui je lui dis oui, je compte me faire opérer par le docteur nanana. Et elle me dit, ah, bah attends, j'ai ma voisine qui a travaillé avec lui pendant 10 ans en tant qu'infirmière au bloc. Et donc elle l'a appelé et elle a dit que du bien. C'est comme ça que j'ai connu ce docteur. Donc j'y vais en toute confiance, quoi. Il m'a montré pas mal de photos de ce qu'il faisait comme opération, du avant et du après. Et je dis, ouais, ça me paraît pas mal. Donc, ouais, si vous pouvez me faire ça, ce serait bien. Vraiment.
C'est combien l'opération ?
5000 euros. Donc, il m'a reçu un vendredi et il m'a opéré un lundi. Moi, j'ai eu un allongement et un élargissement du pénis. Un allongement, vous l'obtenez par section du ligament suspenseur. Un élargissement, c'est de la graisse qu'on prend dans vos cuisses ou dans votre ventre ou les deux et qu'on m'a injecté dans le pénis. Et il m'a aussi injecté de la graisse dans les testicules pour faire ce qu'il appelle un lipofilling des testicules. Donc, il a... attacher mes testicules pour plus qu'elles remontent trop quand il fait trop froid, parce qu'elles remontaient vraiment trop. Il y a des gens qui appellent ça une péniplastie, d'autres qui appellent ça une pénoplastie. Allez voir la différence, pour moi c'est la même chose. Hein. C'est pour avoir un pénis plus gros, donc bon. J'ai pas perdu mes érections déjà. C'est pour ça que l'opération s'est bien passée. Je me suis réveillé de l'anesthésie. J'ai attendu un mois avant d'avoir des rapports sexuels, ce qui était prescrit, donc j'ai respecté à la lettre. J'avais des érections tous les matins, nickel. Je suis satisfait du résultat, je suis content. Et je remercie les chirurgiens. Thank you. C'est une opération, de toute façon, qu'il faut refaire régulièrement. Dans le devis initial, il y a l'intervention pure et dure. Et puis après, vous avez une retouche, parce que c'est de la graisse et que la graisse a une mémoire génétique. Donc si vous maigrissez, c'est pareil, ça s'en va. Et j'ai eu des apparitions de boules graisseuses qui se font comme des kystes dans les testicules. C'est à ce moment-là qu'on décide de faire la seconde intervention de retouche. Et je dis, puisqu'on fait cette intervention-là, autant en remettre sur le, dans le pénis. Il m'a dit, ok. Alors j'ai fait effectivement une blague. Faites-moi un A380 et tout ira bien. Donc un A380, c'est parce que ouais, je voulais un gros pénis. Bon. Où est le mal là-dedans ? On n'a pas. Malheureusement, est apparu ce qu'il a appelé le syndrome de la couronne. C'est-à-dire que c'était un rétrécissement de la base de la verge. Et donc, mon père est reçu par le chirurgien parce que mon père voulait comprendre pourquoi, après deux interventions, la graisse se barre. Il a envie d'avoir des explications. Voilà. Et là, le chirurgien lui dit, bon, bah, il y a un effet couronne, effectivement. Moi, ce que je vous propose, c'est une solution en one shot. Une petite injection d'acide hyaluronique, une solution beaucoup plus safe, sans aucun danger. Et ce qui est magnifique avec ce produit, mais vraiment, hein, c'est que vous pouvez ajouter, enlever, ajouter, enlever, ajouter, enlever. Vous faites ce que vous voulez. Et ça sera beaucoup moins dangereux que de vous remettre sur le billard, parce que là, on va tout casser. Esthétiquement comme mécaniquement. Moi, il me vend ça comme ça, je suis face à un médecin, j'ai confiance. Mon père aussi. Donc, il m'injecte un produit. Bon. Je lui demande au bout de combien de temps je peux avoir des rapports sexuels. Il me dit, comme c'est pas une intervention chirurgicale au bloc, 4 jours de cicatrisation, week-end, on est à Saint-Valentin, vous pouvez avoir un rapport sexuel avec votre conjointe. Bon, bah, le jour J de la Saint-Valentin, on va au restaurant, tout ça, et puis on rentre, et puis je veux avoir un rapport sexuel. Et puis là, c'est le début du naufrage, c'est le début du calvaire. J'ai une sorte d'érection toute tordue, avec plein de boules sur le pénis, comme un terrain de crosse. Des sortes de crevasses. C'était bleu, c'était... Ça ressemblait plus à rien, quoi. Ça me brûlait. Mais ça me brûlait. J'avais des sortes d'érections qui ne me permettaient absolument pas de pénétrer ma copine. Alors, bien sûr, sous le coup de la panique, j'ai envoyé un mail à première heure. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous ? Vous, il y a un truc que vous comprenez pas. Vous savez que c'est pété, mais comment l'expliquer ? Moi, je suis pas médecin. Je souffre, j'envoie des mails où il me dit, cher monsieur... Il existe en effet une légère tuméfaction. Alors que ces mêmes photos, je les montre à des médecins aujourd'hui, ils sont horrifiés de ce qu'ils voient. J'avais mal tout le temps, j'en pleurais, j'en pouvais plus. On m'a emmené dans les urgences qui m'ont dit « Mais cela relève de la chirurgie esthétique, on peut rien faire pour vous. » Génial. Mon père me dit « Ah, ça va encore pas, tout ça. Enfin, » Je voyais que je commençais à perdre ma copine. J'ai été partout pour qu'on m'aide et au final, personne m'a aidé. Donc, j'ai pas eu le choix que de retourner chez ce docteur. Alors, j'y suis allé une première fois. Et là, il a pris une aiguille. Il m'a fait 2 trous sur le côté de la verge. Il a pressé mon pénis avec ses 2 mains pour enlever un peu de produit. Mais en gros, c'était rien de grave pour lui, quoi. C'était juste banal. Je reviens chez moi, j'ai encore mal. Je dis, docteur, ça ne va pas. Et ce calvaire-là a duré 6 semaines. Parce qu'il ne savait plus. Il y a un mail où il me répond, cher monsieur, je ne sais même pas ce que je pourrais encore vous faire. Je ne sais pas ce que vous avez. Donc, il m'a injecté du macrolane en lieu et place d'acide hyaluronique. Le macrolane, je muse à le répéter. Ce n'est pas de l'acide hyaluronique. C'est à base d'acide hyaluronique. Vous avez après toutes sortes de merde dedans. Et c'est surtout pas pour le pénis. La notice est assez claire là-dessus. J'ai passé un EMG pénien. Un EMG, c'est quoi ? C'est on vous met des capteurs et on vous envoie des coups d'électricité dans le pénis. Bah, c'est pour voir si vos nerfs sensitifs répondent. Ils répondent pas. On m'a dit, niette, vous avez une neuropathie pénienne, c'est une atteinte organique. Et c'est pour la vie. Avec toutes les conséquences d'une neuropathie qui sont engourdissement de la verge, brûlure, douleur et sensation d'électricité au contact de l'eau, du chaud ou du froid. Voilà, c'est ce que je dois vivre tous les jours au quotidien. Ce que les médecins me disent, c'est il y a d'autres moyens pour faire des enfants. Alors, il y a d'autres moyens pour faire l'amour, il y a d'autres moyens pour... J'en ai assez qu'on me dise tout ça. Alors, trouver une fille, non, j'y crois plus. Pourtant, j'ai que 29 ans, mais j'y crois plus. Aujourd'hui, je considère que ce que j'ai entre les jambes ne m'appartient plus. Aller aux toilettes ou aller se doucher, c'est revivre mes cauchemars. Les médecins ont expliqué que c'était une situation de reviviscence de l'événement. Typiquement, c'est les conséquences de l'état de stress post-traumatique. Parce que moi, j'ai tout perdu. Vie sociale, vie professionnelle, vie sentimentale, je n'ai plus rien. Moi, aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que je suis dépressif, suicidaire, que je me reconnais pas. C'est ma 2e hospitalisation en clinique psychiatrique, j'aurais juré que jamais j'irais. Et ben ma foi, je me suis trompé, puisque j'y suis. Donc c'est compliqué. Ça montre encore une fois de plus que je suis différent, qu'il m'est arrivé quelque chose de pas commun. Et aller expliquer ça aux filles, vous, c'est quasiment inavouable.
Pour moi, le sexe, c'était s'allonger, faire l'amour, et puis voilà. Je suis des années 60, donc pour moi, c'est le mariage, les enfants. On s'occupe de son mari, on voyage un peu. On n'a pas besoin de trop de choses, quoi. Je dirais, c'était une continuité. On s'est rencontrés, on était jeunes, on s'est mariés, on a eu des enfants. Pour moi, on allait vieillir ensemble, c'est tout. On ne cherchait pas plus. On n'a pas progressé sexuellement. Mais il m'a laissé... avec mes 14 ans. Parce que lui aussi, c'était un novice, je l'ai rencontré, j'avais 14 ans. Lui, il avait 16 ans. Donc, on avait acheté un petit livre qui nous a suivis. Hein, disons tout ce qui est position et tout ça, je dirais, avec le père de mes enfants, il y avait peut-être 3-4. Face à face. Derrière. En fusil, je crois. Et c'est tout. Au départ, on regardait ce livre, mais on ne faisait pas toutes les positions, parce que certaines positions sont douloureuses. Donc, ça fait énormément, ça faisait très très mal. Je ne pouvais pas enlever la douleur. Et puis, il y avait non seulement la douleur, mais il y avait aussi le fait que, bon, avec ce problème-là, j'avais les grandes lèvres qui étaient assez longues. Au moment du rapport, au moment de la pénétration, les lèvres rentraient avec le sexe du bonhomme. Ça me gênait. Ouh, tu me fais mal. On arrête, j'ai plus envie. Ça encore, c'était problématique pour moi. Et ce qui fait que parfois, j'avais l'impression que les gens voyaient. Parce que j'avais, vous savez, les boxeurs et tout, il y en a en dentelle et tout. Et moi, j'aime bien la lingerie fine. Et j'avais l'impression que les gens voyaient. Et quand j'étais debout dans la salle de bain, en face de moi, je voyais deux trucs. Deux oreilles de lapin. C'était pas aussi long, mais... J'étais omnibulée par ce truc-là qui me gênait. Et ça a commencé avec mon ex-mari, qui ne m'a rien dit. Déjà, je me renfermais un petit peu, parce que je sentais qu'il y avait ce problème sexuellement. Mais pourtant, je continuais autour de moi à avoir des amis et tout. Mais je trouvais pas ma place. Je trouvais pas ma place. J'avais mes enfants. J'achetais... Mes enfants, j'allais au travail pour mes enfants, je voulais habiller mes enfants, j'avais que mes enfants. Et c'est pas bien. On a envie d'évoluer avec l'homme qui partage notre vie, lui faire plaisir. Et puis voilà. Parce que j'ai vécu 24 ans avec le père de mes enfants. Et après mon divorce, quand j'ai rencontré un autre homme, lui, il m'a montré beaucoup de choses. Disons que mon ex-mari a fait exactement l'inverse de cet homme que j'ai rencontré qui m'a dit directement ce qui n'allait pas. Lui, il me protégeait parce qu'il savait qu'il y avait autre chose. Tandis que cet homme qui n'avait rien à gagner avec moi, qui n'avait pas d'enfant avec moi, m'a dit directement ce qui n'allait pas. Il m'a dit, mais je ne te sens pas. Attends, bouge, change de position. Sexuellement, ça ne va pas. C'était violent, c'était douloureux parfois, parce que moi j'étais fragile. Je faisais plus de formes, mais c'était le vagin qui était comme ça. J'ai eu un gamin de 4,4 kg. Ma fille, elle a fait 2 kilos. Je ne sais pas si c'était à cause de ça. Et donc, bon, de ce côté-là, il m'a montré quelques petits trucs et il m'a bien dit qu'il fallait resserrer un peu le vagin. Il me montrait, mais il fallait, comment dire, c'est comme si on avait envie de faire pipi. Comme ça, et on tenait très 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 fort. Et ça resserrait un peu, pas beaucoup, un peu. Il fallait le faire pendant le rapport. Il me disait, écoute, on arrête, j'ai pas de plaisir. Ça fait très mal. Ça fait très 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 mal. Mais au bout d'un moment, on sent que c'est un sacrifice inutile. On se dit, ce n'est pas toi. On n'est pas resté longtemps ensemble parce que bon, ça me complexait, parce que je culpabilisais, je me disais, à ton âge tu connais rien du tout, regarde le bonhomme qui te dit ce qu'il faut faire et tout, et j'avais le cœur gros quoi. Je voyais qu'il c'était quelqu'un qui avait envie de que cette relation fonctionne, mais il y avait le côté sexe qui ça lui plaisait pas trop, il était pas très satisfait. Mais je voulais aller plus loin. Je voulais connaître autre chose pour savoir ce qu'il y a derrière la barrière, là. J'ai toujours essayé. Parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir du plaisir. J'ai pas envie de tout le temps dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'ai envie d'avoir du plaisir. Donc j'avance, j'avance, j'avance. Donc, j'étais là toujours sur Internet. Je suis allée sur Internet jusqu'au jour où je me suis dit j'irai voir le docteur par rapport à mes grandes lèvres, s'il pouvait faire quelque chose. Et quand je l'ai vu, je lui ai parlé de mes grandes lèvres, il a regardé et tout, et il m'a dit, bon, comment ça se passe sexuellement? Je lui ai raconté. Il m'a dit, vous savez, il y a aussi, on peut vous faire une vaginoplastie. Je lui ai dit, oh, c'est quoi ça? Et il m'a un peu expliqué, et il m'a dit, vous allez pouvoir resserrer votre vagin, vous aurez plus de plaisir. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit, mais ma pauvre chérie, depuis des années, t'es là à pleurer parce que les hommes te laissent tomber à cause de ci et de ça. Et il m'a parlé, mais c'est quand il me parlait, je me voyais déjà, je rêvais déjà. J'ai dit, mais c'est une solution. J'ai dit, si cet homme a un bistouri dans la main et qu'il peut faire quelque chose de façon à ce que je ne finisse pas ma vie toute seule, pourquoi pas? Donc il m'a tout expliqué en long, en large, pour me mettre un peu en confiance. Parce que bon, c'est quand même un bistouri, on va couper, découper et tout. J'étais tellement désespérée que je me suis dit, vas-y quoi, n'aie pas peur. Et de fil en aiguille, cet homme, il m'a opéré les petites lèvres, la vaginoplastie. Et après, tellement contente de moi, je suis retournée le voir pour la liposuction. Mais quand on a confiance, il me met à l'aise. J'avais la petite culotte de cheval, il m'a enlevé un petit peu le ventre, à la taille là. Et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Déjà, je vous dis que je mets des petites bretelles. Chose que je n'aurais jamais pensé un jour mettre des petites bretelles. Je mets des jeans. Je ne mettais pas de jeans parce que bon, les formes, ça ne se montre pas, il faut tout cacher. Alors que maintenant, je passe avec mon jean, je passe avec ma jupe, ma robe. Et là, ça change une vie. C'est vrai qu'une petite opération, ça aide et ça débloque complètement. Quelques années après, plus tard, j'ai rencontré un homme. J'étais en vacances au pays. À la Martinique. Et du coup, cet homme, je ne veux rien d'autre, c'est lui. Il ne sait rien. Je ne lui ai rien dit de mon opération. Je ne lui ai rien dit. Et ça se passe très bien. Je peux vous dire, je sais que c'est que l'extase. Je connais. Je sais. Je sais à quel moment où... je peux vous le dire, c'est un moment où... On perd un peu la tête. On a envie que ça aille vite et en même temps, on a envie de ralentir et on ne sait plus où on en est. Ça, je n'avais jamais connu. Jamais de toute ma vie, je n'ai connu ça. Au début, il me disait, tu veux que j'arrête? Tu veux que je continue? Tu veux quoi? Fais ce que tu veux, mais surtout encore, encore, encore. Et jusqu'au moment où, à ce moment-là, on peut jouer ensemble, quoi. C'est merveilleux. Ça, j'ai connu après la vaginoplastie. Je ne savais pas ce que c'était que l'orgasme. Voilà. J'ai toujours entendu parler, mais j'avais du plaisir. Je croyais que moi aussi, comme tout le monde, j'étais dans le temps. Mais non, c'est pas ça. L'orgasme, c'est quand on sent que la tête, elle... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais plus où je suis. Et le bonhomme, c'est lui, c'est moi, c'est qui? Vous voyez, j'ai des frissons quand je vous parle parce que je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment décrire. On ressent quelque chose de merveilleux. Donc... Voilà ma vie. Puis là, maintenant, je suis une femme heureuse. Je pense ce truc-là, ça ne m'inquiète plus. La peur des hommes, la peur de déplaire, la peur de tout. Parce que j'avais honte de moi, honte de mon corps. C'est un cheminement et là, j'aboutis. Je suis une autre femme aujourd'hui. Je reviens de là. Voilà.
C'était Mon sexe et moi, un reportage de Valérie Borst réalisé par Cécile Lafont avec un coup de main de Clémence Grosse. Merci au docteur Abécassis, au docteur Knipper, à Anne Gottman et à Harry. C'est Aurélie Marsay avec également Camille Richir et Abdel Rahim Chekroun qui assistent à la fabrication des pieds sur terre. Et sachez que cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 juin 2018. Mais j'ai pensé qu'en cette période festive, elle serait bonne à réécouter.